9h-10h, le Grand Charivari. Pascal Seyss.
Madame, Monsieur, bonjour et belle écoute sur Musique 3, bon réveil. Le MAX, le musée d'art contemporain du Grand Ornu, ouvre ses portes dès demain aux amateurs d'art pour sa grande exposition d'été. Jusqu'au 3 septembre, vous pourrez y découvrir une réflexion sur l'espace dans une confrontation entre deux artistes belges. Le plus jeune est anversois, c'est Wellesley Meurys, qui interroge l'espace d'exposition lui-même, tandis que son aîné, Philippe de Gobert, questionne l'idée de l'atelier. L'atelier, c'est incontestablement, vous le savez, la matrice ou la cuisine de tout artiste. Comment s'y déplace-t-on? Comment cet espace particulier fabrique-t-il la possibilité même de l'imaginaire et de la création? C'est ce dont nous allons parler avec vous ce matin. Philippe de Gobert, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être parmi nous. C'est la première monographie complète qui est consacrée au MAX à votre travail. C'est l'occasion d'explorer avec vous les thèmes qui vous sont chers. L'atelier, la maquette, la photographie d'art, l'espace vrai, l'espace reconstitué, l'espace utopique et ceci juste après les réponses que nous espérons, rituelle question, que je vous pose pour l'avant-dernière fois cette saison, Philippe de Gobert. Quel est le grand charivari de votre vie?
Charivari, c'est quoi? C'est un grand chahut, ça en fait, oui. Moi, j'ai pas eu tellement de grands chamboulements dans mon parcours. Peut-être que la seule chose qui a un petit peu changé, c'est qu'en tant que photographe, on est passé de l'argentique au numérique, bon, ce qui pour certains photographes a été assez brusque et parfois assez dramatique. Moi, je m'y suis pris très tôt, donc à partir de dans les années 90 déjà, en 95, je pense que le logiciel Photoshop est sorti en 94, et moi j'ai commencé à travailler en numérique avec le Photoshop 2, donc c'était 95-96. Et je me suis adapté au numérique progressivement, quoi, très progressivement, ce qui m'a permis de passer du travail argentique professionnel à un travail au numérique professionnel. Maintenant, je ne travaille plus qu'en numérique.
Nous allons avoir l'occasion de creuser comment se fabrique votre regard, Philippe de Gobert. Quel est le nord qu'indique votre boussole?
Moi, le nord magnétique, tout simplement. J'ai le sens de l'orientation, donc je n'ai pas besoin vraiment de boussole.
Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin?
J'ai pas besoin d'avoir quelque chose pour me donner. Dès qu'il y a de la lumière, moi je me lève et puis ça y est.
Vous écoutez Le Grand Charivari de Philippe de Gobert. Ce premier choix musical, vous êtes un artiste visuel. Est-ce que la musique, comme celle-ci, comme celle de Philippe Glass, par exemple, vous porte, vous inspire?
C'est un genre de musique qu'on peut écouter tout en travaillant. Bon, parce que parfois, il y a des périodes où un travail minutieux devient un peu fastidieux. Et c'est le genre de musique qui permet de travailler.
Vous êtes un homme d'atelier, vous travaillez dans un atelier, mais vous êtes passionné de manière générale, on va y venir sur la question de l'atelier. Il y a de la musique dans votre atelier?
J'écoute périodiquement comme ça de la musique et beaucoup la radio en fait.
On peut vous demander quelle radio?
Oui, France Culture.
Alors vous l'avez dit, vous êtes photographe, Philippe de Gobert, mais vous avez été, initialement vous êtes sculpteur.
Oui.
Vous avez travaillé pendant 10 ans dans le milieu de la publicité, puis en quête d'autre chose, vous travaillez comme photographe d'art et d'architecture dans des galeries, dans des bureaux d'architectes, et notamment vous collaborez avec l'architecte Pierre Ebelings, à qui l'on doit le musée du Grand Ornu, et vous y voici maintenant dans ce musée. Alors, quel effet ça fait après tout ce parcours de retrouver la majeure partie de vos productions dans ce musée?
Ce qui se passe, c'est que je connais finalement bien les espaces et le lieu, puisque j'ai suivi en tant que photographe la construction du Max, en fait. Donc j'ai suivi tout le chantier, et puis après, une fois que le Max est ouvert, j'ai toujours continué à travailler pour le musée en tant que photographe, donc en faisant des reportages, des expositions, tout de suite. Mais puis maintenant, je me retrouve...
Est-ce que c'est une chose que vous avez imaginé, que tout à coup, le versant le plus créatif de votre travail serait exposé là, la même où vous avez filmé les œuvres et photographié les œuvres des autres?
Bon, je me suis dit que ça arriverait peut-être bien un jour, mais je sais pas. Non, c'est pas vraiment une préoccupation.
Alors, De toute pièce, c'est le titre de l'ensemble du travail que vous présentez au Max et qui sera accessible au public dès demain jusqu'au 3 septembre. Un petit peu de vocabulaire d'abord, Philippe de Gobert. Qu'est-ce qu'un atelier? Quelle est la spécificité de ce lieu?
Alors, pour moi, un atelier, c'est d'abord un lieu de création. C'est un lieu qui a généralement souvent une architecture un peu particulière, surtout pour la lumière. Enfin, ça, c'est en ce qui concerne en tout cas les peintres, les sculpteurs. Ils ont besoin des conditions de lumière bien particulières pour pouvoir travailler.
Lumière du nord?
Oui, par exemple.
Pas de lumière directe? Lumière,
pas de soleil direct, des choses comme ça. Bien que maintenant, avec les artistes contemporains, il y en a qui travaillent n'importe où, dans une cave ou dans le noir.
Ou en dehors de l'atelier aussi, d'ailleurs.
Bien sûr, oui, dehors carrément. Mais mes références pour le concept même de l'atelier d'artiste sont plutôt tournées vers des ateliers... disons traditionnel, plutôt au 19e siècle, au début 20e siècle, l'atelier avec une belle verrière, etc.
Et qu'est-ce qui vous fascine dans ce lieu-là en particulier, dans ce lieu de création-là de l'atelier?
Le fait que c'est un endroit qui n'a rien de, à part ses données architecturales, rien de bien particulier, mais où il se passe toujours quelque chose, où il s'est passé quelque chose. Pourquoi ça se passe là, on ne sait pas trop bien. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont absolument, peut-être un petit peu moins maintenant avec les contemporains, mais qui avaient absolument besoin de se retrouver dans le lieu lui-même pour pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire, quoi. Donc le climat, on s'installe dedans, la mémoire, tout ça, ça joue beaucoup. Je pense que pour les écrivains, c'est la même chose. Ils doivent avoir leur table, leur crayon, ou certaines conditions bien précises pour pouvoir travailler.
Un atelier, c'est une bulle de création, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que vous l'avez vous-même fréquenté quand vous étiez plus jeune? Que ce lieu-là vous fascine au point de, non seulement, mais on va y venir, les photographier, et puis les construire en maquette, photographier les maquettes, et puis les inventer carrément.
En fait, mes parents étaient des artistes. Mon père peintre, ma mère aussi. Ce qui fait que j'ai toujours été, dès le début, baigné dans cette atmosphère. Donc peut-être que ça a dû me marquer à vie.
Ouais. Qu'avez-vous fait de votre passion première pour la sculpture avant même de vous intéresser aux ateliers?
En fait, au début, je faisais de la sculpture qui était plutôt de l'assemblage. C'est dans les années 67, 68, 69. Les choses que je découvrais dans les expos, c'était Vic Gentil, par exemple, des gens comme ça qui assemblait des éléments, quoi. C'est le début du pop art. Ça, c'est ce qui m'a influencé à ce moment-là. Donc, ce que je faisais comme sculpture, c'était pas du tout de la taille directe, ni de la découpe du bois. C'est plutôt de l'assemblage d'objets trouvés.
Vous étiez déjà un peu bricoleur, on peut dire.
J'étais très bricoleur, oui. Je suis resté. Parce que c'est une des dimensions de mon travail qui est à laquelle j'attache quand même beaucoup d'importance. Toute la phase de construction. Et puis les maquettes qui, en principe, sont uniquement destinées à servir de base pour des photos, je les garde, je les conserve comme des œuvres en tant que telles. Donc pour moi, tout le côté construction a énormément d'importance.
Alors l'œuvre, c'est à la fois l'œuvre photographique. Vous avez parlé tout à l'heure de ce passage du mode argentique au mode numérique. Mais donc, c'est la photographie sur la base de maquettes. Mmh. Alors, au départ, vous avez reconstitué les ateliers de grands noms de l'histoire de l'art, comme Balthus, Brancusi, Pollock ou Mondrian. Pour y trouver quoi, au fond? Est-ce que c'était des lieux que vous aviez visités, photographiés, ou vous travailliez à partir de cartes postales ou de dessins d'intérieur?
C'est tout à fait des lieux que... Bon, qui m'intéressait purement parce que l'œuvre m'intéressait ou une affinité particulière, mais il n'y a pas du tout c'est très éclectique, en fait. Moi, je suis intéressé à Vermeer, à Pollock, à Yves Klein, Kossuth.
Vous n'avez pas fait l'expérience de cet espace en trois dimensions, c'est toujours à partir au départ d'une reproduction.
Oui. Surtout pour toutes les pièces du début. Parce que les pièces du début, en fait, étaient des sortes de petites vitrines, donc en 3D, qui représentaient soit un atelier, soit qui était une reconstitution d'après un tableau qui représente une chambre, par exemple. Mais c'était la pièce elle-même qui était l'objet, l'œuvre. Et il ne servait pas à faire de la photo au début. Donc toute la première partie, ce qu'on montrera au max dans la première salle, c'est toute la période que j'appelle la période des artist room, c'est-à-dire de ces petites vitrines, qui était destiné simplement à être montré tel quel, et pas du tout à être photographié. Mais à l'époque, déjà, j'ai très bien documenté ce travail.
Et à cette époque, ce sont des ateliers représentés en maquette de manière tout à fait réaliste.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est une reconstitution.
Ils ne sont pas toujours une reconstitution de quelque chose qui existe. Parfois, ils sont complètement imaginaires. Ils sont réalistes dans la mesure où ils sont plausibles.
Et c'est ça.
Un exemple... qui est une des pièces que j'ai faites tout au début, qui était une reconstitution en trois dimensions de la chambre de Van Gogh. Enfin, de la chambre, du tableau que Van Gogh avait fait de sa chambre. Ça, c'est un point. Puis, en restant dans le même esprit, je suis parti sur un tableau de Magritte, qui est un tableau assez célèbre, qui s'appelle « Les valeurs personnelles », qui est en fait aussi une chambre dans laquelle il y a tous les meubles qui sont à échelle normale, mais sur ces meubles, il y a des objets du quotidien qui sont à une échelle démesurée. Et dans la pièce que j'ai reconstruite d'après ce tableau, chez moi, ce sont les meubles qui sont beaucoup plus petits, mais les objets qui, chez Magritte, sont à démesurer, sont à taille réelle dans la maquette.
C'est ça, donc vous jouez sans cesse avec les échelles et les échelles des autres que vous adaptez de votre façon.
Oui, c'est un travail sur l'échelle, bien que... Mon échelle, elle n'est pas rigoureuse, mais elle est assez constante.
Nous avons évoqué la lumière particulière des ateliers, de l'atelier ici. C'est une plongée dans les ténèbres. C'est la troisième leçon de ténèbres de François Couperin avec le contre-ténor Alfred Deller et le ténor Wilfred Brown. Philippe de Gobert, vous avez choisi cette musique plutôt pour le mystère de la voix, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui. J'ai toujours été intrigué par des voix qui sont entre... qu'on ne peut pas très bien déterminer si c'est un homme, si c'est une femme. C'est toujours très intriguant et c'est la même chose quand on voit des photos ou des portraits de personnages qu'on ne peut pas situer immédiatement.
Et il y a une ambiguïté qui est liée aussi aux espaces que vous montrez. On ne sait pas s'il est réel, s'il est construit, s'il est reconstruit, s'il est imaginé.
Oui, ça a peut-être rien à voir avec ça, mais bon.
Votre exposition a pour titre, Philippe de Gobert, de toute pièce. Alors la pièce, c'est le contenant, comme on le dit, de l'espace. C'est une pièce, donc c'est le tout. Et puis les pièces, elles, ce sont les éléments individuels qui permettent de construire ce tout, cet espace. Pas de pièce sans pièce, on pourrait dire. Est-ce que vous avez réfléchi à ce lien qu'il y a entre le contenant et le contenu, la tricherie qui est possible, faire des espaces qui sont réels ou seulement vraisemblables? Ce jeu-là aussi d'ambiguïté, justement, entre les échelles.
Oui, ça m'intéresse. Mais surtout quand on voit les grandes images, moi, je joue un peu là-dessus. C'est-à-dire que les photos que je présente sont très, très grandes. On a l'impression de rentrer dans un espace quand on les voit. Et alors, c'est en regardant les détails qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses anormales. Donc, par exemple, des erreurs d'échelle. Des tailles qui mettent la puce à l'oreille, et à ce moment-là, on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et c'est en cherchant un petit peu qu'on s'aperçoit que, en fait, c'est une grande photo, mais d'un espace qui est tout petit.
Alors, par exemple, vous pourriez décrire cette photo ici en couverture du magnifique catalogue.
Cet atelier-là, il était plutôt inspiré d'une vieille image que j'avais trouvée de l'atelier d'un peintre du 19e siècle à Paris. Donc les verrières correspondent à peu près. Et alors, principalement dans cette image-ci,
Tout va bien quand on la regarde. À premier regard, on dit c'est un espace qui se tient, c'est un atelier avec verrières de fait.
Il y a plein de matériaux au milieu qui traînent. Il y a une espèce de Capharnaüm là. Mais si on s'approche et si on regarde bien, il y a en fait, parmi des bouts de bois, il y a un tout petit crayon. Un crayon, une mine de plomb comme ça, mais qui dénote par son échelle par rapport aux autres. Parce que la première impression qu'on a eue, c'est que c'est un grand espace dans lequel il y a des matériaux qui traînent et la lumière de l'atelier. Donc ça a l'air d'être un peu un atelier abandonné, mais si on cherche bien, on va tomber sur ce crayon.
Vous vous amusez, Philippe de Gobert, avec les espaces,
sinon,
évidemment.
Oui.
Et comment se passe le détournement, l'opération détournement? Est-ce qu'elle se fait quand vous bricolez? Est-ce que vous avez l'intention arrive en faisant, si je puis dire? Ou bien en amont, vous dites, là, je sais qu'avec un espace comme celui-là, je peux y introduire une énigme ou y introduire une question ou un clin d'œil?
Oui. Bon, c'est pas très, très, très prévu, quoi. Donc, ça se fait au fur et à mesure. Bon, le coup là du crayon, c'est venu par hasard, parce que dans les petits bouts de bois que j'ai rassemblés, il y avait un crayon, et puis voilà, je l'ai gardé, mais c'était pas délibéré, ça fait pas partie d'une stratégie particulière, quoi.
Il y a des temps d'opération de la création, Philippe de Gobert, puisque d'abord, il y a le lieu initial que vous fabriquez, à partir duquel vous construisez des maquettes, donc vous le transformez, puis votre regard déjà le transforme à ce moment-là. Et puis, il y a le troisième temps qui est celui de la photographie, donc on a différents plans entre une représentation et puis une représentation de représentation et puis une intention derrière. Comment ça s'agence, au fond, cette opération de création ?
Il y a des stades successifs. C'est-à-dire qu'il y a un premier stade qui est en fait un travail de documentation, parce que je vais chercher dans des bouquins, ou parfois ce sont des lieux que j'ai vraiment visités. Je me documente sur les lieux, et puis j'élabore une sorte de plan pour pouvoir comment reconstituer ce lieu, pour permettre de le construire sous forme de maquette. Et puis je cherche des matériaux qui permettent de le faire. Parce que toutes les maquettes sont construites avec des matériaux naturels. Donc quand c'est du bois, c'est du bois. Quand c'est des planchers, c'est différemment des planches. Donc j'essaye de travailler avec des matériaux réels qui permettent de reconstituer à une échelle plus réduite l'impression qu'on a par rapport à ces matériaux. Donc il y a tout ce travail-là qui est un travail préparatoire par rapport aux maquettes. Puis il y a la construction de la maquette elle-même, qui, bon, il y a quelques problèmes d'échelle que je dois respecter pour que ce soit plus ou moins quand même vraisemblable, que ce soit pas un truc complètement fou. Et puis le stade suivant, ben, c'est de commencer à photographier cet espace. Mais ces espaces sont généralement, moi je les construis généralement complètement clos, c'est-à-dire plausible, c'est comme une pièce où il y a quatre murs. Mais pour pouvoir les photographier en respectant ne pas utiliser un grand angulaire et en utilisant des focales normales pour ne pas avoir trop de déformation de perspective, je suis obligé d'enlever un mur. Donc ces maquettes sont complètement, elles sont démontables totalement. C'est un peu comme les décors au cinéma ou les décors en studio. Il y a toujours un côté qui est ouvert. Parfois, il n'y a pas de plafond pour permettre l'éclairage. Donc, c'est construit un petit peu comme un petit studio qui permet de gérer toutes les contraintes de l'éclairage, les contraintes de recul, de prise de vue, sans avoir trop de déformations.
Dans un espace d'exposition, parce que c'est un espace qui est présenté dans un espace, mmh. En général, il se définit par un parcours. Alors, quel est le parcours que vous avez dessiné au Max ? Puisqu'il y a à la fois parcours, des maquettes et oui. Des photographies, comment vous l'avez construit, ce cheminement ?
Le parcours est un peu assez chronologique, c'est-à-dire que dans la première salle, on va montrer uniquement des pièces de l'époque des artist room. Mais pour ne pas faire... simplement une rétrospective en reprenant chronologique et en empruntant des pièces à des collectionneurs ou à des musées pour pouvoir les mettre. Moi, j'ai utilisé un autre stratagème, c'est-à-dire que comme j'avais à l'époque systématiquement documenté le travail, c'est-à-dire que je possédais toute une série de bonnes images de tous ces petits ateliers, j'ai décidé de montrer mon travail sous forme d'une relecture photographique de cette période. C'est-à-dire qu'il y aura dans la salle toute une série de planches qui sont chaque fois il y a une planche consacrée à une pièce précise. Et sur cette planche, il y a soit une image de l'objet agrémentée de dessins préparatoires, de documents, de cartes postales, etc. Donc c'est assez ludique comme relecture. Et la chronologie que je suis n'est pas ni la chronologie de leur fabrication, de leur construction, ni la chronologie de l'histoire de l'art. Mais j'ai décidé de les montrer simplement par ordre alphabétique. C'est-à-dire que je commence avec Albers et on termine avec Warhol, par exemple. Et le fait de les montrer comme ça successivement dans cet ordre arbitraire permet d'avoir des voisinages qui sont intéressants. Parce que tout d'un coup, on a un artiste du 19e siècle qui est à côté de Kossuth, par exemple, qui est un contemporain conceptuel. Et puis, on va passer... voilà. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, ça permet, pour moi, de ne pas avoir l'impression de simplement remontrer ce que j'ai fait il y a 20 ans.
Ceci dit, c'est un peu le principe de la rétrospective, si je puis dire.
Oui, non, mais c'est ça. Mais en général, les artistes n'aiment pas trop les rétrospectives.
Alors ouais, vous dites que le spectateur élabore des liens, on peut établir des liens entre différentes époques. Est-ce qu'il y a aussi des constantes, vous qui avez observé puis construit, donc vu de très très près aussi, différents types d'ateliers, est-ce qu'il y a des points communs qui permettent de relier un espace du 19e siècle avec celui d'un artiste conceptuel new-yorkais, par exemple ?
Bon, le seul point, le point de liaison... Bon, ça...
L'âme de l'atelier, ouais, le génie du lieu, ce serait quoi ?
C'est très difficile à détecter. Je pense que ce qui se passe toujours, c'est que on sent quelque part que c'est un lieu privilégié. Et généralement, moi, j'essaye aussi de gommer trop de références directes, c'est-à-dire de garder plus l'atmosphère du lieu de création. C'est pour ça que dans l'expo, il y aura notamment un travail assez récent, qui est un travail sur le théâtre, qui est une grande maquette, une reconstitution d'un plateau de théâtre, en fait. Et pour moi, le plateau de théâtre, donc le côté coulisses, c'est un peu analogue pour que l'atelier.
C'est l'atelier des comédiens.
Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que le travail sur le théâtre est dans cet esprit-là. Quoi. Donc, je ne montre pas du tout. Il n'y a pas de décor dedans. Il n'y a que tout le mécanisme, les contraintes d'un plateau d'opéra ou de théâtre, c'est-à-dire les cintres, les côtés courts, côtés jardins, les perches, la lumière, parce que c'est une maquette qui est réellement éclairée avec de l'éclairage comme dans un théâtre.
Just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Thank you. Cause when love is gone, there's always justice. And when justice is gone,
le début des années 80, Laurie Anderson, qui a fini par épouser son compagnon de longue date, Lou Reed, Philippe de Gobert. C'était des années assez exceptionnelles au niveau de la, non seulement de la création, mais aussi des allers-retours, qu'il y avait des échanges entre les arts plastiques et la musique, début des années 80, années 70.
C'était une période assez passionnante, je pense. Ouais. Et Laurie Anderson était venue à Bruxelles faire une... C'était pas vraiment un concert, c'était plutôt une performance, parce qu'il y avait... Déjà, à ce moment-là, non seulement elle jouait sur son violon avec un tube néon, donc c'était très visuel. Il y avait des projections derrière, c'était le début de la vidéo, encore avec des projections assez artisanales en diapo, et des trucs comme ça.
On en est où aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler le milieu, le monde de l'art, de votre point de vue, Philippe de Gobert? Si les années 80 étaient aussi exceptionnelles, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça ronronne ou au contraire, c'est très stimulant et qu'il y a des choses...
Non, moi, je crois que ça ronronne un peu trop, surtout que ce qui est un peu venu parasiter tout ça, c'est le marché de l'art. Donc, mais sinon, il y a toujours... Moi, je fréquente de temps en temps des tout jeunes qui essayent de se débrouiller et qui vont inventer quelque chose de nouveau. Ça, c'est... Mais bon... Mais le monde de l'art est un peu trop présent avec toutes ces foires toutes les cotes, les ventes publiques et tout ça. C'est un peu, ça parasite un peu tout. Est-ce qu'on n'avait pas du tout ça à l'époque?
C'était plus libre du coup. La création était plus libre.
Ah oui, beaucoup plus. Oui. Et je pense qu'on allait plus facilement dans les galeries pour découvrir des choses. Maintenant, souvent les gens ne vont même plus dans les galeries, ils vont dans les foires. Quoi, donc ils suivent le troupeau un peu. Non. Moi, je trouve la période était très intéressante. C'est à l'époque où il y avait des galeries d'avant-garde, comme par exemple la Wide Wide Space à Anvers, qui a montré quand même des gens très, très intéressants, très pointus à l'époque. Mais ça, on n'a plus beaucoup. Maintenant, tout est un petit peu consensus comme ça.
On prend moins de risques parce que sur le niveau du marché.
Ouais. Ouais.
Pour en revenir à votre exposition, Philippe de Gobert, donc de toutes pièces, à découvrir jusqu'au 3 septembre au Musée du Grand Ornu. Vous avez évoqué, et vous m'avez invité à parcourir la première salle, qui précisément est autour de ces années 70. Hein, donc vous avez dessiné un parcours, avez-vous dit, arbitraire et par ordre alphabétique, mais qui traite de ces années 70. Il reste deux salles dont nous devons parler. En quoi consiste-t-elle?
Alors la deuxième salle, c'est une salle où je ne montre que principalement des maquettes elles-mêmes. Des maquettes du début, même des maquettes actuelles. Donc c'est tout étant présenté en volume. Il y a assez, plus quelques grandes photos qui permettent un peu d'établir déjà quand même quelques liens entre la maquette et la photo, quand c'est intéressant, sans trop appuyer là-dessus. Et puis la troisième salle, ce sera uniquement des grandes photos. Donc des grandes photos qui sont faites d'après les maquettes qu'on a vues dans les précédentes.
Alors ce travail, vous l'avez débuté dans les années 70, 1970, nous sommes en 2017. C'est à l'infini de pouvoir explorer les espaces d'atelier, Philippe de Gobert?
Je sais pas, on retombe quand même sur des constantes à un certain moment. Et alors, je n'ai pas uniquement travaillé sur les ateliers. Il y a toute une partie de mon travail qui est consacrée à de l'architecture, donc des architectures emblématiques. J'ai par exemple fait un travail sur la... Toujours en prenant le processus de construire une maquette, de la photographier. J'ai travaillé sur la villa Wittgenstein à Vienne, qui est une construction tout à fait particulière dans les années 30.
C'est pas une maison que le philosophe avait réalisée pour sa sœur?
Exactement, oui, c'est ça. Oui, ça, c'est assez intéressant. J'ai fait un travail sur la maison de verre de Charot à Paris. Sur l'atelier de Melnikov à Moscou. Melnikov, c'est un architecte dans les années 20. Tous c'est des lieux que moi, je n'ai jamais vus. Donc, je construis tout ça et tout l'univers, l'atmosphère des photos vient uniquement de documents livresques, quoi.
Et de la même façon, vous jouez avec ces espaces ou vous avez là plutôt l'intention d'une reconstitution, mais qui soit plus que plausible, qui soit la plus réaliste possible et la moins imaginée? Ou bien c'est toujours une reconstruction d'un espace?
C'est la reconstruction d'un espace au départ qui est fidèle, mais qui prend certaines libertés, quoi. Parce que même dans le travail sur la Villa Wittgenstein, qui est une architecture terriblement structurée, avec des rigueurs absolues, même là, j'ai pris certaines libertés. Ben, j'ai éprouvé le besoin, en tout cas, à un certain moment, de sortir de cette rigueur pour pouvoir un peu échapper à ça, quoi.
Vous êtes un photographe d'espace, un concepteur aussi d'espace, même s'ils sont reconstitués, Philippe de Gobert. Dans le cheminement que vous proposez aux visiteurs du musée, il y a une contrainte qui est l'espace lui-même, donc on passe de salle en salle. Vous êtes joué aussi là de la contrainte de l'espace qui est offert, l'espace d'exposition lui-même.
Oui. C'est-à-dire qu'au max, à partir de la première salle, qui est une grande salle, on doit descendre des escaliers, on rentre dans une toute petite salle un peu assez intime, qui est la transition en fait entre la première et la deuxième. Et dans cette salle-là, j'ai montré un travail très particulier qui en fait m'a permis de faire la transition entre la période des artist rooms, qui étaient des reconstitutions fidèles d'espace ou des évocations fidèles d'œuvres d'artistes, et le travail suivant qui est l'atelier dans l'absolu. Et pour arriver à faire cette transition, il y a un moment où je voulais échapper à toutes les références, etc. Pour faire cette transition, j'ai pris une série de documents qui sont des photos d'ateliers qu'on trouve dans les livres. Et j'ai simplement, avec de la gouache, masqué tout ce qui permettait d'identifier à qui appartiennent les œuvres, à qui appartient l'atelier. Et c'est ce que je montre là. Donc il y a quatre ou cinq petites images qui sont des photos, simplement une reproduction d'une photo. Par exemple, l'atelier de Baltus, c'est une photo de son atelier où j'ai masqué tout ce qui permettait d'identifier comme étant l'atelier de Baltus ou comme une peinture qui était son atelier. Et ça permet de ne garder dans cette image que l'atmosphère de l'atelier. Et pourquoi est-ce que, en gardant uniquement ces éléments-là, on sait tout de suite qu'on est dans un atelier? Cette démarche-là m'a permis de faire la transition entre la période des artist rooms et la période des ateliers dans l'absolu.
Alors, entre ces deux périodes, il y a l'atelier donc réel et puis, avez-vous dit, l'atelier absolu ou l'atelier utopique. Lequel préférez-vous? Quels espaces préférez-vous?
Moi, je préfère maintenant, enfin, surtout au début, peut-être pas, mais au début, je m'intéressais fort à certains lieux, certains artistes. C'était plus, plus illustratif. Mais maintenant, moi, je m'intéresse plus à l'espace absolu. Et c'est pour ça que je suis arrivé dans la deuxième période à travailler sur des architectures. Comme par exemple, la Villa Wittgenstein est une architecture qui m'a très fort intéressé parce qu'il y a tout un travail sur la lumière, comme dans mes photos.
Donc, tout un cheminement, et puis le travail d'une vie aussi, Philippe de Gobert, qui commence avec les choses telles qu'elles sont, et puis qui aboutit aux choses telles qu'elles devraient être, quelque chose comme ça.
Oui, enfin, tel que moi je les rêve, en tout cas, oui, peut-être.
Voilà, De toutes pièces, c'est le titre de cette exposition à découvrir jusqu'au 3 juillet au Max. Merci à vous d'être passé en nos studios pour nous parler de votre travail, Philippe de Gobert. Il me reste une ultime question à vous poser avant de laisser la place à la musique. Avez-vous une maxime? Avez-vous une devise?
Non, j'ai pas vraiment une devise, mais je pense à un proverbe africain qui dit que tous les blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps.
La partita numéro 6 de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Glenn Gould, dernier choix musical de notre invité, l'artiste plasticien, sculpteur, photographe, maquettiste Philippe de Gobert. On rappelle que l'exposition de son travail de toutes pièces est à découvrir au Max tout cet été, puis jusqu'au 3 septembre. Merci à vous d'être fidèles à ce grand charivari. Katia Madoul et Pascal Seize, nous souhaitons de passer une excellente journée, une très très bonne semaine. Nous vous retrouverons avec plaisir pour le dernier numéro de la saison. Samedi prochain, c'est à 9h du matin. Ce sera le week-end du Festival Musique 3. Nous aurons le plaisir d'accueillir le réalisateur documentariste Boris van der Harvoort à l'occasion de la sortie en salle à Flaget de son film consacré aux insectes et qui s'intitule Champ de vision. Très bon week-end, très bonne semaine. À samedi prochain. Au revoir.